Europe 1, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, 27e jour de confinement en France et comme il est impossible de se promener à l'extérieur, c'est par téléphone que nous partons en balade jusqu'à midi et demi en compagnie d'Éric Judor, de Macha Merrill, Bernard Pivot, du philosophe Olivier Rey, de la chanteuse Guy Edré, de Patrick Bosseau, de Blandine Rinquel, de Noé Debré et d'Hector Obalk et nous écouterons quelques chansons prémonitoires qui nous parlaient du confinement sans le savoir et celles qui commencent à sortir un peu partout dans le monde sur le Covid-19. Et j'appelle tout de suite Éric Judor, c'est le duo Éric et Ramzy qui l'a rendu célèbre, mais aujourd'hui la critique va être bien obligée de reconnaître qu'il est le plus visionnaire de nos cinéastes. Allô, Éric Judor ?
Bonjour, Frédéric Taddeï.
Bonjour, vous êtes un véritable extra-lucide. Hein. En 2008, dans votre film Seul Tout, vous vous retrouviez avec Ramzy dans un Paris totalement désert, à l'image de celui que nous connaissons aujourd'hui. En 2017, dans Problemo, c'était tout le pays qui était victime d'une pandémie mortelle. Et plus fort encore, en 2016, dans la tour de contrôle infernale, vous donniez la recette pour soigner le coronavirus. Il fallait s'injecter, disiez-vous, 10 centilitres de bière mexicaine avec un zeste de citron. Je ne vais pas la donner en entier, hein, la formule.
Il y avait une cuillère à soupe de je ne sais plus quoi exactement. Malheureusement, j'ai oublié le
ingrédient. Ouais, on ne va pas le dire, ça va faire une polémique comme avec la chloroquine. Mais franchement, vous êtes le Nostradamus du cinéma français.
J'adore ce terme. Je préférerais le Paco Rabanne de l'humour.
Mais oui, Paco Rabanne, lui, s'était trompé.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui.
Il n'y a pas eu la fin du monde.
On n'a pas testé ma recette contre le coronavirus, donc on ne sait pas. Je ne sais pas si ça doit m'effrayer ou me plaire. Parce que comme je suis en train d'écrire, par exemple, en ce moment, des choses, des séries, des films, je flippe un peu de tout ce que j'écris.
D'annoncer une nouvelle catastrophe.
C'est-à-dire que là, maintenant, j'écris que des trucs extrêmement bienveillants. Il se passe rien de spécialement grave, histoire de pas forcer le don.
Ça devrait vous valoir au moins un César d'honneur, j'imagine. Et puis une belle vengeance à l'égard des critiques qui n'ont pas toujours été tendres avec vous.
Ah bah là, ils doivent tous regretter, évidemment. Évidemment, ils doivent se dire, oh là là, merde, putain, qu'est-ce qu'on n'avait pas écrit alors qu'il avait vu juste, 10 ans d'avance sur la maladie. Non, je suis pas sûr que le fait que ça arrive rende mes films bons, mais même si j'aime beaucoup ce que
ils sont très distrayants en cette période de confinement.
Non, mais je conseille les gens vraiment regarder Problemos, qui par ailleurs a été écrit par Blanche Gardin et Noé Debré. Hein. C'est quand même c'est honneur à ces auteurs visionnaires. Moi, j'ai adoré le sujet, donc j'ai sauté sur cette pépite. Mais on doit reconnaître l'immense talent visionnaire de ces deux grands auteurs d'avoir écrit sur ce thème.
C'est drôle, ça avait dû vous coûter très cher dans Seul Tout d'effacer tous les Parisiens pour que vous soyez, Ramzy et vous, tout seul dans les rues de Paris. Quand on pense qu'aujourd'hui c'est gratuit, vous pourriez tourner.
C'est ça que j'ai immédiatement dit à Alain Attal, le producteur. Je me suis dit, merde, putain, on avait 12 ans de... On aurait dû le tourner 12 ans plus tard, ça aurait coûté. Mais en même temps, on avait tourné début du mois d'août. Et puis, on avait profité aussi des répétitions du 14 juillet pour tourner sur les Champs-Élysées vides le matin du 13 juillet. Et c'est assez impressionnant, effectivement, de voir les images maintenant. Voir que on est dans Seul Tout, quoi. Et c'était assez angoissant à tourner, déjà. Je me souviens de courir sur les champs et d'entendre l'écho de mes pas sur chaque façade.
Et ça faisait peur, hein.
Ah bah oui, je te le confirme. C'est pas que ça fait, c'est ça angoisse quoi, ça angoisse. Ça, je me disais jamais de la vie j'aurais envie de vivre dans un monde comme ça. C'était une idée qui nous faisait rire avec Ramzy parce qu'on était parti de Tom et Jerry en fait. On se disait ça serait rigolo, deux mecs qui se cavalent, tout ce qu'on pourrait faire en fait. C'est amusant quand on a l'esprit d'un enfant, mais je pense que je suis plus adulte qu'à l'époque où on a écrit ça. Et du coup, aujourd'hui, ouais, je trouve ça extrêmement angoissant.
Comment vivez-vous votre confinement
C'est comme si c'était tous les jours dimanche. C'est-à-dire que j'ai 50 ans, donc c'est tous les jours, je suis toute la journée avec des enfants hurleurs. Et du coup, c'est balèze. Hein. c'est balèze, hein. Franchement, là maintenant, énorme respect à toutes les maîtresses d'école, à tous les profs. Je change de regard sur cette profession.
Vous êtes Guadeloupéen par votre père, mais Autrichien par votre mère. Or, l'Autriche commence à déconfiner. Vous êtes rassuré pour votre famille ?
Il reste confiné, mais ma famille autrichienne...
Ils n'ont pas confiance dans le gouvernement ?
disons que le gouvernement autrichien s'est pas mal trompé hein, dans l'histoire. Donc, je pense qu'ils seront prudents. Et c'est pas un déconfinement non plus, genre « Ouais, c'est la fête, y'a vol !» En général, hein, ça reste quand même un confinement par étapes aussi.
Et très encadré.
C'est hoche en Autriche, quoi, encore.
Vous faites vos courses ?
Non, j'envoie ma femme.
Oui.
Je préfère. Je préfère parce que, pour plusieurs raisons. Un, moi, j'adore ma vie, donc j'aimerais rester le plus longtemps possible en vie. Et de deux, je sais que moi, je flâne. C'est-à-dire, je ne sais pas exactement les marques qu'il faut acheter, je ne connais pas exactement les bons produits, et je serais capable de tâter tout un tas de produits avant de me dire « tiens, c'est le bon avocat, tiens, c'est la bonne tomate », et du coup, éventuellement, de contaminer tout un tas d'autres personnes. Voire déjà d'avoir des regards assassins des autres clients. Donc, je laisse ma femme faire qui, en un regard, saura tout bien faire. C'est pas misogyne, attention ce que je dis, hein. C'est juste qu'elle s'y connaît mieux en ce que j'ai vécu que moi.
Oui, je comprends bien. Vous regardez la télévision davantage que d'habitude ou...
Je fais un truc que je ne faisais jamais avant. Je regarde le journal de 20h pour connaître la version officielle.
Et alors ?
Soit je vais repartir sur Instagram, en fait.
Eh bien, je vous remercie, Éric Judor. Confinez-vous bien et j'espère à bientôt.
Merci beaucoup, Frédéric. Très bon confinement 2020 à vous.
Personne n'est à l'abri où que tu sois de ce sale virus. Respectons les mesures pour vaincre ce sale virus. Engageons-nous tous pour stopper ce sale virus. Soyons vigilants et calants, nous protège du coronavirus. Yeah. Fermez les frontières.
J'appelle maintenant le philosophe et mathématicien Olivier Rey, l'auteur d'Itinéraire de l'égarement, d'Une folle solitude, d'Une question de taille. Allô, Olivier Rey ?
Oui, bonjour.
Bonjour, vous venez de publier dans le Figaro une tribune remarquable intitulée « S'émerveiller de l'arrivée du printemps » dans laquelle vous vous inquiétez que notre horizon se soit rétréci à un seul et unique sujet, le coronavirus.
Non, mais bon, on comprend bien que cet événement de grande dimension et qui nous arrive de manière assez inattendue polarise énormément l'attention. Mais passé le premier moment de stupeur, je pense que au fur et à mesure que l'on s'installe dans cette crise du coronavirus, je pense qu'il est aussi important pour la traverser correctement qu'elle ne prenne pas absolument toute la place.
Ce qui est problématique, parce qu'aujourd'hui, si vous vous émerveillez de l'arrivée du printemps, ou si vous faites de l'humour, ou si vous parlez tout simplement d'autre chose, on vous rappelle rapidement à la décence. On vous dit qu'il y a en ce moment des gens qui meurent, et ça ferme le débat.
Bah écoutez, des gens qui meurent, de toute façon, nous sommes tous destinés à mourir, et même en temps normal. Il y a énormément de gens qui meurent. Donc, si on devait ne plus s'intéresser à rien au prétexte des gens qui meurent, ce serait notre état permanent. Je ne nie absolument pas la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Mais enfin, c'est quand même pas une situation qui change fondamentalement non plus la condition humaine. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas non plus, à travers cette crise, perdre complètement de vue ce qui fait cette condition, à la fois dans ses difficultés, mais aussi dans ce qu'elle peut avoir, heureusement, de plus riant. En fait, je pense qu'il y a aussi Peut-être que l'indécence, c'est pas seulement vis-à-vis des personnes qui meurent, mais c'est aussi vis-à-vis des personnes qui sont en première ligne dans la lutte contre cette maladie. Et ce qui fait que les personnes qui, elles, ne sont pas en première ligne, peuvent avoir le sentiment, en laissant leur pensée s'échapper vers d'autres sujets, qu'il y a une forme d'indécence aussi à si vous voulez, à s'intéresser à autre chose que le coronavirus, pendant qu'il y a des personnes qui vivent cela pratiquement 24 heures sur 24.
Le plus grave, dites-vous, Olivier Rey, c'est qu'en laissant le monde se résumer au coronavirus, en laissant notre pensée être omnubilée par ce seul sujet, nous devenons des êtres unidimensionnels qui appellent la dictature, dites-vous, comme les pots attendent leur couvercle. C'est le problème, effectivement, de tous les êtres unidimensionnels, hein, que l'on se réduise à son pays, sa religion, à son idéologie. En fait, on appelle la dictature comme les pots attendent leur couvercle.
C'est vrai, une certaine difficulté avec l'expression qui est régulièrement employée aujourd'hui, qui est l'impératif de sauver des vies. Et bien sûr qu'il faut tout faire pour empêcher les personnes de mourir. Mais ce faisant, on a un petit peu, je trouve, tendance à oublier que s'il vaut tellement la peine de sauver des vies, c'est que notre condition, c'est pas simplement d'être en vie, mais c'est d'être au monde et de s'intéresser à des tas de choses. Enfin, vous savez, c'est la phrase classique où on dit « à quoi bon vivre si pour vivre on perd les raisons de vivre ?» Et il faudrait pas que dans cette crise où on nous mobilise, enfin la société doit se mobiliser pour essayer d'empêcher au maximum les personnes de mourir, ce faisant, on mette de côté les raisons fondamentales pour lesquelles il est bon de vivre et de tous les intérêts multiples et variés qu'on peut avoir dans la marche du monde.
Alors évidemment, on va vous accuser de tenir ces propos confortablement installés dans quelques résidences secondaires à la campagne et se faisant d'oublier tous ceux qui n'ont pas cette chance, mais vous répondez également à cet argument. Hein, vous habitez en ville et vous regardez un couple de pies sautiller sur un carré de pelouse et cela suffit à vous émerveiller.
Oui, enfin... ce que j'avais précisé dans l'article, c'était que mes conditions de confinement, je les avais qualifiées d'intermédiaires. Voilà, je suis quand même dans une maison modeste, mais une maison dans une grande ville. Voilà, je ne suis pas dans un manoir à la campagne. Je ne suis pas non plus confiné dans un tout petit appartement parisien ou d'une autre ville ou d'un quartier dans un grand ensemble. Non, en fait, là, quand vous dites que je m'émerveille de couple de pies sur la pelouse, c'est vrai, mais en fait, vous voyez le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que tout de suite, ça peut faire penser pour une forme de, pour employer un néologisme qui vient de l'anglais, d'escapisme, de une manière de s'échapper des dures réalités en se réfugiant dans une contemplation du monde esthétique. En fait, j'espère que ça n'est pas cela. Je pense que rester au cours de cette période sensible à tout ce que la vie a de bon, c'est quand même aussi une manière de prendre des forces pour faire face sur le long terme à ce que nous avons à affronter.
Et de plus précieux aussi.
Oui. Mais j'ai pensé à, puisque on est aujourd'hui, enfin actuellement, on est beaucoup dans les métaphores guerrières. Quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné, c'est Ernst Jünger, qui a traversé tout le XXe siècle et ces deux guerres mondiales, et en particulier
plus de centenaire.
Voilà, ouais. Et il a eu une conduite tout à fait remarquable et héroïque comme soldat pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est tout à fait époustouflant de voir qu'un tel soldat qui a montré une telle activité guerrière pendant la guerre. En même temps, parce qu'on ne se battait pas quand même 24 heures sur 24, pendant les 4 ans de guerre, il a également beaucoup lu, il a écrit, il a passé beaucoup de temps aussi à observer les insectes qui ont été une passion toute sa vie. Et on pourrait s'étonner qu'avec l'activité militaire qu'il a montrée, il ait pu en plus lire, écrire et regarder les insectes. Et en fait, je pense que les deux vont ensemble. Enfin, si vous voulez, c'est précisément parce qu'il n'est n'es pas complètement en permanence submergé par les réalités de la guerre, qu'il a pu aussi s'y consacrer avec beaucoup d'énergie.
Il y a George Orwell aussi, que vous citez dans votre article, et qui avait reçu énormément de lettres de protestation, parce qu'il avait osé faire une chronique sur ses rosiers pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ah oui, ça c'est effectivement, c'est autre chose, oui. C'est au tout début 1944, il avait écrit une chronique dans le journal pour rappeler le bonheur que lui avait valu la culture des rosiers qu'il achetait, des plants de rosiers qu'il achetait pour une somme dérisoire au grand magasin Woolworths. Mais chez lui, ça avait vraiment un sens très
politique.
Important de parler de rosiers pendant la guerre, parce que justement aussi, il pensait que l'âme de ses compatriotes ne devait pas être complètement submergée par la question de la guerre, qui évidemment était la grande question à l'époque, parce que s'il valait la peine aussi pour l'Angleterre de gagner cette guerre, c'était ensuite pour mener une vie où on pouvait s'occuper de ses rosiers. Et c'est toujours très dangereux de mettre complètement entre parenthèses certains intérêts au profit d'une lutte, parce qu'on n'est jamais sûr, une fois la lutte terminée, d'être capable de, si en route, on n'est jamais sûr de retrouver à la sortie tout ce qu'on avait mis sous le boisseau.
Ce que vous dites dans cet article, Olivier Rey, à quoi bon lutter contre un virus si en luttant on désapprend à aimer la vie ?
Oui, c'est ça. Mais je suis quand même aussi tout à fait conscient du fait que nous sommes dans une période où il y a des personnes qui meurent et où il y a des personnes qui travaillent très dur dans les hôpitaux. Et puis il y a également beaucoup de personnes qui assurent toute la logistique dont nous avons un besoin vital. Et donc en fait, il faut faire preuve d'une très grande décence vis-à-vis de ces questions-là. Mais d'un autre côté, je ne pense pas que objectivement on aide beaucoup ces personnes en fermant son esprit à tout ce qui n'est pas le coronavirus pendant les semaines que nous vivons.
Merci Olivier Rey, portez-vous bien et à bientôt, j'espère.
Merci beaucoup, au revoir.
S'émerveiller de l'arrivée du printemps, c'était déjà le cas de Stacy Kent en 2010, une chanson qui parlait déjà, sans le savoir, du coronavirus.
Agité comme un roseau dans la tourmente, tout m'énerve et tout mérite en ce moment. Le monde me par ce beau jour de printemps, fatigué, désabusé, sans courage, impatiente, je ne sais plus ce qui m'attend. Je sens arriver l'orage par ce beau jour de printemps. Je voudrais me sentir loin d'ici, fuir la vie de chaque jour. Et peut-être en m'évadant ainsi, y trouverais-je de l'amour. Les bourgeons des marronniers de mon enfance, la jacinthe, l'aubépine et les lilas blancs, en vain chante leur romance. Douterais-tu du printemps? Tout est si joyeux, pourtant je suis si malheureuse. D'où me vient tout ce tourment ? mon ami.
Stacy Kent, la version française d'It Might As Well Be Spring, un tube des années 40.
Clase humo. Ahí viene el coronavirus.
Esto es demencia.
DJ Dan. Ahí viene el coronavirus.
J'appelle à présent la comédienne Masha Merrill, on l'a vu dans Adorable menteuse de Michel Deville, dans Nous ne vieillirons pas ensemble de Piala, dans Les frissons de l'angoisse de Dario Argento. Elle vient juste de publier un roman, Vania, Vassia et la fille de Vassia. Allô, Masha Merrill ?
Bonjour Frédéric.
Bonjour Masha, est-ce que vous gardez le moral ?
Écoutez, d'une certaine manière, je suis presque optimiste. Vous savez, on commence tous à avoir une connaissance, un ami, un voisin qui s'en va à cause du Covid. Et je pense que ça va peut-être nous redonner la valeur de la vie. Vous savez, moi, je suis une fille d'émigrée, donc je sais ce que c'est dans nos familles d'avoir à sauver sa peau. Et je pense que les Français ne sont pas équipés devant la mort. Mais cette expérience... quelque chose qui va peut-être un peu ressouder les gens et leur donner l'impression que, regardez, aujourd'hui moi je devrais être à Pau en train de signer mon livre dans une grande librairie. Ça me paraît d'une futilité extrême et tout d'un coup je me réjouis d'avoir les pensées que j'ai, d'avoir les activités que j'ai, parce que on se replonge un peu dans une nécessité. Et ça, je crois que la France en avait un petit peu besoin. On faisait beaucoup de caprices. Et là, cette terrible épidémie va nous obliger à réfléchir un peu.
Vous êtes en train de nous dire qu'il nous fallait une bonne guerre, quoi.
Oh, écoutez, oui, ça c'est un adage. Mais je pense que là, c'est bien pire qu'une guerre. Parce que ça nous a attrapés sans qu'on ait absolument des prémices. Vous savez, une guerre, il y a toujours quand même quelque chose qui ne va pas, des luttes qui durent pendant diplomatiques, qui durent pendant des années, et puis tout d'un coup, ça explose. De toute façon, je pense que ce genre de guerre qu'ont connu nos parents, nos grands-parents, n'existeront plus. Il y a d'autres guerres maintenant. Des guerres bactériologiques, des guerres justement morales. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec Hulot, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais là, il a dit c'est un ultimatum. Le ciel nous envoie une sorte de signal très fort pour nous dire, il va falloir tout remettre à plat, tout repenser. Alors moi, il y a trois choses dans mon optimisme que je vois venir. Premièrement, on va arrêter de se lécher le museau et de s'embrasser sans arrêt et de faire des bisous. Alors moi, ces bisous, je ne les ai jamais supportés. Je ne sais pas qu'est-ce qui a saisi la société française où tout le monde vous embrasse. Vous savez, on va dans les salons du livre et les gens vous poussent, les enfants, disent « Ah, faites-lui un bisou !» Mais pourquoi est-ce qu'il faut faire des bisous ? C'est une chose qui ne n'appartenait pas au code de l'éducation française. Deuxièmement, on va peut-être ressouder un peu les Français entre eux. J'essaye d'être optimiste parce que je trouve que toutes les polémiques qui ont agité la société française récemment n'ont plus lieu. Et on voit apparaître dans toutes les émissions de télévision, on est tous collés devant la télévision maintenant, des autres personnes, des grands médecins, des chercheurs, des scientifiques. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est ça la France et qu'il y a des Français formidables. Alors moi, ça, je me réjouis qu'on voit tout d'un coup un autre aspect de la société française. Et puis la troisième chose qui est la plus importante, c'est qu'on va repenser la mondialisation. On va évidemment relocaliser des industries de première nécessité, peut-être réindustrialiser un petit peu la France. Alors bon, ça va être des années d'efforts et un peu coûteux. On va peut-être tous un peu moins bien vivre. Mais attendez, je fais du ménage dans ma maison comme tout le monde, un grand ménage de printemps, et je m'aperçois de nombre d'objets inutiles qui traînent dans ma maison. qu'est-ce qu'on achète comme conneries ? Alors, moi-même, vous voyez, maintenant, je continue à faire mes courses une fois tous les trois jours, comme tout le monde. Et avant, j'achetais toujours un petit t-shirt, un objet, un petit bijou. C'est terminé. J'achète plus rien de tout ça. Alors, ça veut dire qu'il y a des pans de l'économie qui vont peut-être s'écrouler. Je m'en réjouis. Allons un tout petit peu à l'essentiel. Allons un petit peu vers des choses plus sobres. Cette sobriété-là, c'est la sobriété de Pâques. Nous sommes dans la semaine sainte. Donc, ayons des pensées un peu sobres.
Vous ne serez tout de même pas contre un masque multicolore ou avec un imprimé original ?
Pas du tout, je suis en train de m'en fabriquer moi-même. Alors, bon, moi je crois que ça va être rigolo un temps. Je pense qu'il faut des masques un petit peu plus sérieux que ça. Mais si tout d'un coup, ça nous ramène à cette façon de se méfier de quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Je crois qu'il fallait matérialiser le danger. Et ce Covid, il est là. Il est là pour nous dire attention, il y a des dangers extrêmement grands et qui sont invisibles. Alors, bon, je préférerais qu'il n'y ait pas de mort, mais quand même, je suppose qu'il fallait ça. Et c'est un peu fataliste que je vous dis, mais je ne suis pas russe pour rien. Hein.
Vous, véritablement, vous cousez des masques en ce moment ?
Alors, j'ai fait trois choses. Un, j'ai rangé mes livres. Alors là, c'est extraordinaire parce que j'ai enfin ma bibliothèque par ordre alphabétique. Ça fait 10 ans que je me jurais de le faire. Et j'ai jeté des livres. J'ai jeté énormément de livres. C'est-à-dire, la question, le critère, c'était est-ce que j'ai envie de les relire ? Non. Alors finalement, il y a beaucoup de gens qui passent à la trappe. Et je pense que ça va être comme ça dans tous les domaines. Il va y avoir pas mal de faiseurs ou de gens secondaires qui vont un peu disparaître. La deuxième chose, c'est que j'ai rangé mon carnet d'adresses. Vous savez que ça, c'est extraordinaire. En saisissant les adresses de toutes les personnes que je connais, j'ai enlevé ceux que je n'aime pas et qui ne m'aiment pas. C'est-à-dire ceux qui me dérangent mon existence. Ceux qui qui ne me veulent pas du bien. Ben, dites donc, ça fait un drôle de ménage, hein. Je vous assure qu'il y en a beaucoup aussi qui disparaissent. Et puis aussi, j'ai fait la même chose avec mes vêtements. Eh bien, là aussi, on s'aperçoit que tout de même, on n'a pas des besoins si grands que ça. Et il faut se résoudre à une allure, une toilette qui est nous, qui nous représente bien et qu'on n'a pas besoin du reste.
Et vous vous retranchez énormément dans votre propre existence, ma chère Meryl.
Comment faire autrement ? Qu'est-ce qu'on nous demande là en ce moment ? Comment voulez-vous que... Alors moi j'aide d'abord en obéissant au confinement. Je pense que c'est déjà une démarche assez solide. Et puis par tous ces innombrables téléphones, regardez, je parle avec vous, j'essaye de répandre la bonne parole. Et puis aussi, je parle à plein de gens. Alors c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'il y a tous les vieux amis un peu lointains qui téléphonent, qui prennent des nouvelles parce qu'ils s'emmerdent. Et alors ils s'emmerdent et tout d'un coup, on réapparaît. On réapparaît dans la mémoire de plein de gens. Ça c'est formidable, c'est réconfortant. Je crois que voilà, tout ça, c'est ce tri, cette espèce de tamis qui est devenu notre existence de confiné, va être profitable. Puis vous savez, hein, moi je ne peux pas être nostalgique et je ne peux pas être négative. Je pense que les choses qui arrivent vont dans le sens de l'histoire. On va mieux et on ira mieux après ce Covid.
Vous avez publié plusieurs livres de cuisine, vous ne les avez pas achetés ceux-là quand même.
Non, et alors attendez, je suis utile, parce que je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui font mes recettes un peu longues à faire, un peu, vous savez, les risottos qui nécessitent une certaine attention, le veau au lait qui nécessite 3 heures de cuisson, je suis à l'ordre du jour, mon cher.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, ma chère Meryl, portez-vous bien.
Merci. Et puis vous aussi, continuez à être optimiste. Il y a de quoi. Il y a de quoi.
À bientôt.
À bientôt.
Noé Debré, Éric Judor l'a mentionné tout à l'heure, c'est le jeune scénariste de nombreux films comme Dipane de Jacques Audiard, Palme d'Or à Cannes en 2015, ou de Problemos, le film d'Éric Judor, on l'appelle tout de suite. Allô, Noé Debré ?
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes le créateur de la série Parlement, une série pleine d'humour qui se passe dans les coulisses du Parlement européen à Strasbourg. Une série tellement subtile, originale et pas politiquement correcte que France Télévisions la diffuse uniquement sur son site internet france.tv. Cela dit, c'est pas plus mauvais. Les Français passent de plus en plus de temps sur internet depuis qu'ils sont confinés, jusqu'à 3 ou 4 heures sur leur téléphone. C'est votre cas ?
Ah oui, c'est définitivement mon cas. Et en plus... Enfin, en ce qui me concerne, par ailleurs, j'ai pas de télévision chez moi et ça fait un bout de temps que j'en ai pas, donc je pense que c'est sûrement aussi le cas d'une partie du public potentiel de Parlement.
Vous êtes confiné tout seul ?
Non, je suis en couple.
Ça se passe bien ?
Ouais, ça se passe bien. Après, je me disais l'autre jour que, en fait, c'était quand même beaucoup plus facile pour moi que pour elle, parce qu'elle, elle est enfermée avec moi, parce que moi, je suis enfermé avec elle. Donc, ça se passe bien pour moi.
Oui, vous passez beaucoup de temps sur votre ordinateur, donc.
Ah ouais, toute la journée.
À ce point-là.
À ce point-là, mais en fait, bon, au fond, ça ne change pas non plus énormément. Enfin, pour un scénariste, le confinement, ce n'est pas non plus un grand bouleversement.
Mais pour un scénariste, c'est une période intéressante, non ? Il y a du suspense, il y a des rebondissements, il y a même de l'humour.
Oui, il y a beaucoup d'humour, ouais, effectivement. Il y a beaucoup de blagues. En tout cas, il y en a eu beaucoup au début, et puis j'ai l'impression que ça se tarie un peu. En tout cas, moi, je lis moins de choses récemment, là. Donc c'est intéressant, et en même temps, on a quand même un peu l'impression de vivre toujours la même journée. Donc c'est intéressant jusqu'à un certain point, quoi.
Oui, ça rappelle Un jour sans fin, le film avec Bill Murray.
Ça rappelle Un jour sans fin, ouais. Et ça rappelle... et moi, j'ai pensé à un bouquin, c'est La montagne magique, de Thomas Mann, où il décrit comme ça comment les journées qui se ressemblent toutes passent de plus en plus vite. Comment... peut-être qu'à la fin du confinement, on aura l'impression qu'il s'est passé 3 jours. Quoi.
D'autres citent Problemos, un film sur lequel vous avez travaillé avec Blanche Gardin et avec Éric Judor. Comment vous était venue l'idée de Problemos, de cette pandémie qui tout à coup tombe sur un pays comme le nôtre ?
Eh ben, en fait, je pense que le raisonnement était un peu théorique, mais en gros, ce que racontait donc Problemos, c'est une ZAD. Bon, après, c'est une satire, hein, ça ressemble pas vraiment à ça, les ZAD, mais c'est, disons, une ZAD avec un groupe de gens qui disent on va vivre différemment, on va vivre différemment, et qui font un discours qui est énormément tourné vers on va vivre différemment des autres. Et donc, on s'était dit avec Blanche que ce serait marrant d'avoir cette communauté. Mais il n'y a plus d'autres. Donc, ils peuvent plus dire, on va vivre différemment des autres. Et ça les plonge dans de grands questionnements, quoi. Donc, c'est comme ça qu'était venue la pandémie.
Les grands questionnements, on y est plongé depuis maintenant presque un mois que nous sommes confinés. Il y en a qui vous semblent intéressants. On va démondialiser, on va vivre autrement, on va...
Ouais, il y a un truc que j'ai lu, que je trouvais marrant. J'ai lu un tweet de quelqu'un qui disait, c'est quand même... marrant que l'économie s'effondre parce qu'on consomme tous uniquement ce dont on a besoin. Ça, je trouvais ça pas mal. Après, j'ai pas eu de... pour l'instant, il n'y a aucune lecture qui m'a non plus, je trouve, profondément éclairé, quoi. Je pense que tout le monde attend de voir.
Qu'est-ce qui vous manque le plus ?
Je me suis pas posé la question. Qu'est-ce qui me manque le plus ?
Ben c'est peut-être que rien ne vous manque si vous ne vous posez pas la question.
C'est vrai, peut-être. J'ai envie de dire d'aller au cinéma. Non, je pense que c'est le théâtre. Le théâtre, ça me manque quand même. La représentation, le spectacle vivant, quoi.
Vous faites vos courses ?
Je fais mes courses. Je fais la queue, surtout pour faire mes courses. Mes courses, ça prend pas tellement de temps. Par contre, le fil d'attente dans le 20e sont assez considérables. Mais bon,
c'est quelque chose qu'on connaissait pas, nous, hein. On n'avait pas vu ça depuis la Seconde Guerre mondiale.
Ouais, ça évoque ces images-là, ouais. Bon, après, toute proportion gardée, mais c'est vrai que c'est curieux, ça évoque. Il y a ce truc en plus très étonnant de la distanciation, donc le fait que les files d'attente, comme ça, les gens sont à un mètre d'écart les uns des autres. Et en tout cas, là où je suis, c'est très respecté. Et c'est vrai que ça donne un truc, un côté métropolis, un côté comme ça, un peu robotique de la ville, et la façon dont chacun avance d'un pas en avant comme ça.
L'Europe est l'héroïne de votre série satirique Parlement, qui vient donc de débuter. Quand on la regarde, on comprend bien pourquoi ils n'ont trouvé aucune solution commune pour l'instant.
Hein. Alors après, là où ils sont, là où les discussions ont lieu en ce moment, c'est le Conseil. Donc c'est l'Europe, mais c'est l'Europe des dirigeants, donc c'est intergouvernemental. C'est pas le Parlement européen, où là, ce sont des élus... Enfin bref, mais donc c'est en fait ça a quand même une nature assez différente et je trouve que là j'ai lu un article que j'ai trouvé vraiment intéressant là-dessus dans The Economist, c'est que en fait l'Europe c'est quand même ça fonctionne quand même de gré à gré, c'est-à-dire que les gens se rencontrent à Bruxelles, ils s'assoient ensemble dans une pièce et ils se disent on sort pas tant qu'on s'est pas mis d'accord et systématiquement au moment des crises c'est comme ça que ça se passe. C'est on se met d'accord autour d'une table et donc les relations que nous, ces gens entre eux, et aussi le fait qu'il y ait des moments informels, des moments où on fait un peu tomber le masque de la position du pays pour discuter, pour négocier. Là, vu qu'ils sont obligés d'avoir ces conversations sur en visioconférence, je pense que ça annule comme ça tous ces interstices qui permettent d'aboutir à une décision. Et en tout cas, c'est ce que nous décrivent les gens à Bruxelles. Et je pense qu'en fait, profondément, c'est une crise très compliquée pour les Européens, en tout cas pour les institutions européennes, parce qu'elle empêche les gens de se rencontrer. Et que l'Europe, c'est là que ça se joue.
Merci Noé Debré. J'espère que Parlement aura tellement de succès que France Télévisions finira par la diffuser à la télévision,
merci
en clair. Merci, à bientôt.
Beaucoup. Au revoir, à bientôt.
Et l'on écoute Respire de Mickey 3D, une chanson de 2003 qu'on écoute aujourd'hui d'une oreille différente.
Europe 1, Frédéric Taddeï.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi. Toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire.
C'était Mickey 3D, respire.
Solo Dios a hacia el hombre feliz.
Et maintenant, Guédré, chanteuse humoristique, vedette de l'underground et de la contre-culture. Allô, Guédré ?
Eh oui, bonjour.
Vous allez bien ?
Bah, ma foi, oui, ça va. Ça va, ouais.
C'est une question qui a du sens par les temps qui courent, hein. C'est plus une formule de politesse.
Oui, un peu, puis c'est, on n'a jamais grand-chose à raconter là depuis deux semaines. Tu fais quoi ? Bah rien. Quoi de neuf ? Bah rien. T'es où ? Bah chez toi. C'est vraiment, ça tourne très vite en rond, hein, les conversations.
Vous vivez dans les Cévennes habituellement. Là, vous avez été rejoint par pas mal de monde.
Alors oui, alors bon, il y avait des gens qui voulaient venir se confiner à la maison, tous ces mêmes gens qui me disaient mais tu te fais pas chier à vivre à la campagne, sérieux, il y a rien à faire à part de la bouse de vache autour. Et alors tous ces gens d'un coup ont trouvé ça merveilleux, mais comme on leur a dit qu'il fallait qu'ils passent 14 jours en quarantaine dans le garage avant de rentrer dans la maison, on n'a plus eu beaucoup de nouvelles finalement.
En tout cas, il y a beaucoup de Parisiens dans les Cévennes, vous l'avez remarqué.
Ah bah oui, moi je respecte fort le confinement, donc j'ai pas remarqué grand chose. Ouais.
Vous ne sortez pas.
Non, j'ai très 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 peur de la fin du monde, tout ça, donc je commence déjà à creuser mon abri anti-atomique. Mais comme tous les magasins de bricolage sont fermés, je fais ça à la main. Donc je pense que ça va me prendre quelques années.
Vous êtes d'origine lituanienne, vous êtes née à Vilnius, dans ce qui était encore l'URSS. Ils sont confinés aussi là-bas, vous demandez des nouvelles de votre famille ?
Oui, ben ma mère et mon frère sont là-bas. Alors c'est très rigolo parce qu'ils ont été confinés avant la France. Ils ont été confinés à 6 cas de coronavirus. Donc voilà, tout le pays a été mis en quarantaine une semaine avant la France, je crois. Et c'est assez rigolo. Je pense que c'est des restes un peu de l'URSS parce que vous vous souvenez le jour où on a dit que tous les bars allaient être fermés. Bon, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, on va en profiter pour sortir une dernière fois. Et j'ai mes amis qui m'appelaient parce qu'ils voyaient les images. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème en France. Pourquoi tout le monde est dehors ? Il y a eu un attentat. Non, mais c'est juste que c'est la France, quoi. En fait, c'est. Mais c'est la quarantaine. Pourquoi ils sont pas. Oh, bah, non, mais c'est différent, c'est pas pareil.
Votre compagnon, l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré, fait des vidéos hilarantes et quotidiennes sur Internet. On vous voit dedans parfois. Les tournages rythment vos journées ?
Oui, bah bon, surtout les siennes. En ce qui le concerne, je crois qu'il aimerait que le confinement ne dure pas trop trop longtemps, parce que je crois que là, si on additionne bout à bout, il a dû faire un long métrage depuis le début. Donc, c'est chouette quelque part parce que beaucoup de gens n'arrivent pas trop à créer, parce que c'est une période un petit peu bizarre. Donc quand on arrive à sortir un peu de cette méandre de questionnement perpétuel et qu'on arrive à faire quelque chose, c'est chouette. Ouais.
Vous-même, vous avez posté une chanson. Est-ce que tu te souviens quand on ne se lavait jamais les mains ? Ouf, c'est difficile à dire. Hein.
Faut s'entraîner, faut faire beaucoup de qui sont tous ces serpents avant de la chanter. Ouais, bah oui, c'est tout le monde qu'on regrette aujourd'hui. J'ai l'impression que les gens regrettent beaucoup, voilà, de se transpirer dessus dans le métro, de plus voir la couleur du ciel. Ça, tout d'un coup, ça semble merveilleux. Et d'un coup, ils se rendent compte que peut-être ils n'auraient jamais dû faire d'enfants et tout ça. Donc, c'est assez rigolo. Moi, j'aime bien.
On va écouter tout de suite le refrain.
Je voudrais que tout redevienne comme avant. Qu'on arrête de passer du temps avec nos enfants. Qu'on arrête de prendre des nouvelles de nos parents. Je voudrais qu'on redevienne comme avant.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Voilà, vous êtes filmé chez vous, hein, tout simplement. C'est pas un disque. Hein.
Ah bah non, là, je crois que tout le monde redécouvre la joie du fait maison. Et tout le monde un peu tombe le masque, montre l'intérieur de chez soi pas bien rangé. Tout ça, c'est plus grave. Voilà, il n'y a pas de chef opérateur, il n'y a plus de maquillage, il n'y a plus rien. Là, c'est on voit les cernes de tout le monde. Ouais.
Il y a beaucoup de chansons, de morceaux intitulés Coronavirus qui sortent actuellement, qu'on peut trouver en ligne. Et ça vient du monde entier, hein.
Bah mais parce que je crois qu'on a du mal à écrire sur autre chose. Je crois qu'on est quand même même si on fait un peu les malins, on doit quelque part un peu être un peu perturbé, quoi. Donc je crois.
Oui, effectivement. Est-ce que vous faites les courses quand même ? Vous avez un potager?
Oui, alors j'ai la chance d'avoir un potager. Donc là, je crois que j'ai un peu exagéré. Enfin, tout ça pour dire que dans 2 mois, si les Cévennes ont faim, ils pourront revenir à la maison. Oui, j'ai un potager, mais oui, qu'on sort quand même de temps en temps faire un petit peu les courses. Très peu quand même, très peu, avec une espèce de slip avec des élastiques autour des oreilles. Là, bon, on ne sait pas trop comment faire là, pour ces masques, mais bon, on fait ce qu'on peut.
Vous regardez la télévision ou toujours pas?
C'est terrible. Je suis devenue cette personne qui regarde le 20h.
C'est vrai?
Ça m'étonne énormément et je crois que c'est le pire de ce qui pouvait arriver avec cette pandémie, c'est qu'il y a des gens qui se mettent à regarder le 20h. Et c'est peut-être le plus gros dommage collatéral finalement. On n'en parle pas assez.
Qu'est-ce qui vous manque le plus?
Ce qui me manque le plus. Bah bon, alors bon, déjà évidemment, voilà, les tournées qui s'annulent, c'est toujours pas bon, c'est triste, bon, c'est très égoïste, hein, mais c'est vrai que c'est triste. Voilà, là je devrais être en train d'enregistrer un disque, je devrais être en train de faire des concerts, donc ça me manque. Bah c'est peut-être juste la sensation de si on veut, on peut faire quelque chose. Et là, bah même si on veut pas, on ne peut rien faire. C'est peut-être juste cette sensation de liberté qui manque, je crois.
Merci Guédré. J'espère vous revoir bientôt et bon confinement.
Merci, bah vous aussi, et puis faites bien attention. Hein.
Bien entendu.
Merci.
Confinez-vous les uns les autres. Confinez les oiseaux.
Oui.
Confinez les poules. Confinez les poulets.
Affirmatif.
Confinez les épaules, confinez les minets.
Direction Marseille, j'appelle l'humoriste et comédien Patrick Bosso, que l'on a pu voir dans Retour chez ma mère d'Éric Lavenne et dans Marseille de Cadmerade. Allô, Patrick Bosso?
Oui.
Comment allez-vous?
Mais écoutez, tout va bien, tout va bien. C'est bizarre de dire cette phrase, mais dans le pire, ça va, quoi.
Ouais. Vous avez la plage à 10 minutes de chez vous, est-ce que vous êtes tenté?
Alors, elle est même plus près qu'à 10 minutes, hein. Mais elle est sur les yeux, on est tenté, mais je viens de voir passer 2 policiers, là, qui ont, je ne sais pas s'ils ont verbalisé, mais en tout cas, qu'ils ont fait remballer leur serviette à 2 Marseillais, je présume, qui s'étaient mis sur la plage.
Ouais, mais c'est tentant, reconnaissez-le, non?
Ah,
vous n'êtes
ben
pas tenté, oui?
On n'est pas compte. Mais là, le verset de la Bible, « Ne me soumets pas à la tentation et délivre-moi du mal », il prend tout son sens. Là, je suis devant la tentation de la plage. Alors, il y a 2 mouettes, là, vous voyez, qui sont toutes seules, les pieds dans le sable. Voilà, ce qu'on voudrait tous faire. Ben, là, elles le font. Et donc, voilà, quoi. C'est ça, en fait. Tout sort, quoi. La nature, les bourgeons, tout sort. Sauf nous, quoi. Donc, c'est sûr que la tentation est grande.
Et c'est sûr, hein, les gens croient qu'ils envient ceux qui ont la plage sous les yeux ou la mer sous les yeux. Mais c'est bien pire.
Ouais, alors moi, je suis encore dans la période où je la vois. Donc, c'est bon signe. C'est-à-dire que tous les jours, je mesure ma chance. Mais jusqu'au jour où je ne la verrai plus, là, pour le moment, je la vois. Quoi. Donc, c'est vrai qu'elle m'aide beaucoup. Franchement, hein, je compte les vagues. J'en étais à 12 863 000 là, avant qu'on m'appelait. Et donc, voilà, quoi. Je regarde ce bleu. Par contre, le bleu de l'horizon a changé. Et là, j'en suis le premier témoin parce qu'il y avait une genre de grande bande grise entre l'horizon et le ciel qui était tous les soirs. Et toute la journée, quoi. Et là, il n'y est plus. Là, c'est du bleu de partout. Et donc, c'est encore plus dingue, quoi.
Ouais. Vous êtes à Marseille. Est-ce que vous en avez profité pour aller vous faire tester à l'IHU du professeur Didier Raoult?
Non, mais je vais vous dire un truc. Ça rassure d'être près de Raoult. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. On a l'impression que le druide est là. Et que, voilà, quoi. Et alors, je sais pas s'il a vraiment la potion magique, mais en tout cas, il laisse attendre. Et donc, voilà, quoi. Donc, c'est vrai que ça rassure un peu d'être à Marseille. C'est pas Marseille qui était une ville rassurante, hein, à la base. Mais là, en l'occurrence, c'est le professeur Raoult me rassure, quoi. Alors, pour le moment, je suis pas allé me faire attester parce que, apparemment, la queue part de devant chez moi. La file d'attente jusque, vous voyez, à peu près, il y a 10 kilomètres de file d'attente, quoi. Donc, je vais rester plutôt chez moi, mais disons que ça rassure de le savoir pas très loin.
Qu'est-ce qui vous manque le plus, à part de vous baigner ou d'aller sur la plage?
Oh putain, il me manque tout. Qu'est-ce que vous voulez, quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il me manque tout, on fait des gestes que j'avais pensé faire, quoi, tu vois. Et je nettoie une tomate comme quand je nettoyais le visage de ma fille, avec précaution, une tomate. Ça m'a pris 2h30. Hier, je suis sorti, ça faisait 18 jours que j'étais pas sorti. 18 jours, je suis sorti pour faire des courses et j'avais envie d'embrasser le feu rouge, vous voyez, et le feu vert. J'étais là et j'étais content d'attendre, quoi. Je me disais, voilà, je suis au feu rouge, je suis bien, quoi. Et j'étais à 500 mètres de chez moi, j'avais l'impression d'être Los Angeles. D'être loin, d'être un gamin, vous savez, comme quand on est gamin, qu'on fait le mur et qu'on s'en va pas très loin, là, et qu'on a l'impression qu'on est au bout du monde. Là, je me disais, oh là là, qu'est-ce que je suis loin, quoi. Et après, vous rentrez chez vous, vous avez un genre de sas de décompression, quoi. Hop, vous mettez à s'inspirer, vous dites, oh là là, je suis sorti à l'extérieur, quoi. Donc voilà, quoi. Donc là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je lutte pour, comme les infirmiers et tout ça, quoi, que je salue à ma manière, quoi. Là, je sors de la sieste. Et c'est la première fois que faire la sieste chez soi est considéré comme un acte guerrier, on va dire. Vertueux. Vous voyez, oui, vertueux, guerrier, voilà, quoi. Donc je suis content de participer à la lutte à ma manière, en faisant les siestes les plus longues que je peux, quoi. J'aide la société à ma manière, mais voilà, quoi.
Est-ce que vous êtes confiné tout seul?
Je suis confiné tout seul. Et là, je peux vous dire que, ah, vous voyez, ce « ah » là, il veut dire beaucoup de choses. Ah, désolé. Il y a le « désolé » qui allait juste après, après votre « ah ». Mais ouais, il faut avoir une vie intérieure riche. Et c'est pour ça que je pense que, enfin, moi, je suis très, très peu sur les réseaux sociaux. Moi, je regarde un petit peu sur le Facebook, la page officielle de mon spectacle. Moi, je regarde et je vois beaucoup de photos d'enfants. Tout le monde envoie des photos quand on était jeune et tout ça, quoi. Parce que j'ai l'impression que, comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de ça, comment on va sortir, et ça, il y a un genre de tout le monde regarde en arrière, quoi, dans le rétroviseur. Et t'as envie d'appeler tes ex. T'as un côté comme ça, tu te dis, c'était mieux avant. Donc, je vais repartir dans l'avant. Pour le moment, quoi, parce que le après, là, m'inspire bien confiance. Et donc, voilà, quoi. Donc, ouais, je suis tout seul et c'est vrai que des fois, c'est compliqué, quoi.
Oui, mais il paraît que c'est compliqué aussi quand on est plusieurs.
Alors, c'est ça. C'est ça aussi. J'ai des potes, franchement. Après, c'est vrai que si il y a vraiment quelque chose qui marque très bien les inégalités, c'est vraiment le confinement, quoi. Parce qu'on n'est pas tous égaux là-devant, quoi. Moi, j'ai un pote, excusez-moi, hein, je vais pas vous citer des grands auteurs, je sais que vous interrogez des intellectuels et tout ça, qui vous disent des grandes phrases, vous voyez, tout ça, sur le confinement, ici des auteurs et tout. Moi, je vais vous citer mon pote, que j'ai appelé il y a 3 jours, et qui le vit très mal, parce que c'est quelqu'un qui tourne le temps dehors, vous savez, et voilà, quoi, qui vit dehors. C'est pas quelqu'un qui va poser ses coudes sur les rebords de la fenêtre et regarder pendant une heure à l'extérieur. Donc, il a pas de terrasse et tout. Et je lui ai dit, à un moment donné, à bout d'argument, je lui ai dit, mais je sais pas, mais il y a un livre. Et il m'a dit, mais j'en ai pas. Voilà. Et quand il m'a dit, mais j'en ai pas, c'était un cri, vous voyez, de la baleine, là, apeurée, ou je sais pas, un truc, un cri d'animal. Voilà, même pas ça. Donc, c'est compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir des livres, d'avoir été fourrière un peu à la lecture et à tout ça, quoi. Et donc, c'est vrai que là, on parle souvent de terrasse et de balcon, mais je pense que la culture, dans ce moment-là, quoi, ça, c'est le balcon de l'esprit, quoi. On peut sortir un peu dans notre tête, quoi. Et des fois, c'est pas évident pour tout le monde. Donc, c'est là où c'est devenu compliqué.
Eh bien, bonne lecture, Patrick Bosso.
Eh bien,
ça m'a fait plaisir de vous entendre.
Merci.
Et j'espère à bientôt.
Merci. Au revoir.
Et tiens, si l'on écoutait Human, la chanson de Rag & Bone Man en 2017, qui tombe fort à propos aujourd'hui, puisque c'est une chanson sur la culpabilité, sur l'angoisse de ne pas avoir toujours la solution. Le refrain dit « Peut-être que je suis fou, peut-être que je suis aveugle, mais je ne suis qu'un être humain après tout, ce n'est pas moi qu'il faut blâmer. »
Europe 1, 11h30, Frédéric Taddeï.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Human after all, I'm only human after all, don't put the
C'était Rag & Bone Man qui chantait Human, un tube d'il y a 3 ans, autant dire une éternité. On se retrouve juste après les infos.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront confinés.
Merde, je sais pas ce qu'il va faire, putain.
Cela signifie que les regroupements extérieurs ou amicaux ne seront plus permis.
Confinés, 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 je sais pas comment je vais continuer. Confinés, plus de tomates, plus de ciné.
Allô, Bernard Pivot.
Oui, bonjour.
Comment vous portez-vous?
Je me porte moyennement parce que il fait du soleil dehors et j'ai pas le droit d'aller dehors, donc je suis un petit peu. En vérité, je sais pas, je suis un peu perplexe. Je suis pas bien dans ma peau et en même temps, parfois, je me dis non, mais c'est formidable ce que tu vis parce que ce que je vis est exceptionnel, bien entendu. Je pense qu'on est tous conscients. Et en même temps, je me dis, mais attends, confiné, mais tu as toujours été confiné. Les journalistes littéraires, les écrivains sont toujours confinés. Pendant les 15 ans et demi d'apostrophe, j'étais confiné chez moi. J'étais le seul moment où je quittais mon appart, c'était le vendredi soir pour rejoindre le studio de télévision. Sinon, j'étais confiné. Alors évidemment, j'étais confiné volontairement. Maintenant, je suis confiné par obligation. C'est un peu différent. Puis, j'étais confiné à l'époque pour gagner la vie. Maintenant, je suis confiné pour ne pas la perdre.
Il me semble qu'aucun auteur de science-fiction n'avait imaginé une situation comme celle que nous traversons. On a quand même fermé les librairies et les stades de football. Et tout le monde a trouvé ça normal.
Oui, c'est vrai. Alors, je suis pas un grand lecteur de science-fiction. Donc, je peux pas vous dire si ça a été décrit quelque part par un auteur particulièrement rusé, mais peu importe, ce qui est vrai, c'est qu'on vit quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, on est le football, les librairies, les théâtres, les cinémas.
Tout ce qui vous intéresse le plus.
Bah oui, non, mais au fond, il n'y a plus que deux choses qui vivent aujourd'hui en France. C'est le corps, donc la maladie, l'hôpital, la santé, etc. Et puis les médias, ce que vous êtes en train de faire, ce que nous sommes en train de faire tous les deux. Ce sont les deux seules choses qui existent aujourd'hui, mais tout le reste a été aboli. Il n'y a plus de voyage, il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de librairie, plus de théâtre, plus de cinéma, il n'y a plus de football, il n'y a plus de rugby, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de commerce. Enfin, il y a un petit commerce, mais enfin, c'est pas grand-chose. Donc il n'y a plus rien. Moi, j'ai l'impression d'être devant le vide. J'ai l'impression que c'est la première fois que je vis avec le vide. Et peut-être que, métaphoriquement, peut-être qu'on nous a demandé de rester chez nous pour ne pas tomber dans le vide.
Vous continuez d'être actif sur Twitter. Vous y dites confiné, reclus, oisif, désœuvré, fatigué, calme et immobile. Ce qui est drôle, c'est que c'est la manière dont nous sommes censés lutter contre l'épidémie. Hein. Vous l'avez remarqué vous-même.
Ben oui, bien sûr, oui. C'est comme ça, oui. J'entends encore quelques publicités, de vieilles publicités qui disent « Pour votre santé, bougez plus ». C'est absolument incroyable. J'ai dit qu'ils sont fous.
et vous êtes comme beaucoup d'entre nous, quand vous regardez un film, vous voyez des hommes et des femmes qui s'embrassent ou serrent la main et vous avez envie de leur crier « Non, ne faites pas ça !»
Oui, non, mais j'ai envie de bondir, mais vous êtes cons, attendez, vous n'allez pas vous embrasser sur la bouche, vous êtes fous. Arrêtez. Alors maintenant, je m'y habitue un peu plus, mais au début, j'étais un petit peu indigné à dire quand même, il faut respecter la distance d'un mètre quand même. Alors surtout que dans les téléfilms, on voit bien, vous savez, le mouvement de l'homme et de la femme qui vont s'embrasser, c'est toujours très lent. Hein. C'est toujours très très lent. C'est rare quand c'est brutal, non, c'est lent. Alors on se dit non, arrêtez.
Vous voyez, c'est la preuve à quel point on s'habitue à tout, hein. Même à l'inimaginable. En un mois, bah, ça y est, on a pris le pli.
Ah oui, bien sûr, oui. Puis on a pris le pli de se mettre à un mètre et demi quand je fais la queue là, pour aller devant mon traiteur. Là, je fais la queue, comme tout le monde, à un mètre et demi. D'ailleurs, si vous ne respectez pas le mètre et demi, il y a un regard furieux qui vous... Et il m'est arrivé un truc incroyable l'autre jour, chez un commerçant. J'ai éternué.
Alors, j'ai terminé bien, hein, j'avais un masque, donc j'ai terminé dans mon bain. Mais ça a été terrible, parce que tous les regards sont tournés vers moi. Hein. Là, ça a été comme si j'avais d'un seul coup la peste. Hein. C'est vraiment terrible. Hein. Alors, je ne me suis pas excusé, j'étais honteux. Voilà, j'étais honteux parce que j'avais éternué.
Vous remarquez également que les oreilles des personnes âgées sont de plus en plus encombrées.
Ben oui, les miennes. Ben les miennes.
Broche
ben,
de lunettes.
Ça, c'est des écluses. Hein. C'est des écluses. J'ai des lunettes, j'ai des prothèses auditives. Je mets des masques avec des élastiques derrière les oreilles. Alors, heureusement, j'ai pas de bijoux. Je mets pas de bijoux à mon oreille. Mais alors,
pas de boucle d'oreille.
Les femmes qui ont tout ça, j'ai pas, de temps en temps, dans les queues, je regarde les oreilles des femmes. Je me dis, ben, elles ont des boucles, les lunettes, les prothèses,
On peut même ajouter les haut-parleurs du téléphone portable. À la fin, on ressemble presque au centre Pompidou, à Beaubourg.
Oui, c'est vrai. Non, mais il y a des changements absolument incroyables. Hein. C'est fou. Mais vous avez raison, on s'habitue. On s'habitue. C'est ça qui est extraordinaire. On s'habitue à ce qu'il n'y ait plus de matchs de football, à ce qu'il n'y ait plus de. On peut plus aller au cinéma, plus aller au théâtre, même plus on pourra rentrer dans une librairie pour acheter un livre. Rien. C'est comme ça. Finalement, la nature humaine est très très souple, très très obéissante. Hein. Il y a quelques-uns qui font du jogging à des heures interdites, mais à part ça, quelques révolutionnaires. À part ces révolutionnaires, tout le monde est quand même bien calfeutré chez lui.
Ouais, oui. Vous avez hâte d'en sortir ?
Ah bah oui, j'ai hâte d'en sortir. Oui, parce que quand même ça. Excusez-moi, mais ça fait chier quand même. Hein. Non, mais bien sûr que heureusement que j'aime lire, parce que les gens qui n'aiment pas lire, alors qui passent leur temps à regarder la télévision, quand même, là, ça. Alors là aussi, il y a des changements incroyables, parce que regardez sur les chaînes sportives, on ne passe que des vieux matchs de football, des matchs de la Coupe du Monde, de l'Euro. Et j'ai même vu avant-hier un vieux derby Saint-Étienne-Lyon. C'est incroyable. Et puis, sur les chaînes de télévision, vous voyez que des films populaires, les de Funès, les films de Capdépé, Le Bossu, Le Cyrano de Bergerac, etc. Donc, c'est extraordinaire. On vit maintenant dans le passé, complètement. Et quand j'achète mes kits tous les matins, comme d'hab, mais là, maintenant, là aussi, ils nous parlent que des vieux de la vieille, hein, maintenant.
Et oui, normalement, on achète l'équipe pour se précipiter sur les résultats sportifs. Oui. Là, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien. Il y a 2-0, les 3-1, c'est fini.
Eh bien, bon courage, Bernard Pivot, et j'espère vous revoir bien vite.
Ben oui, j'espère que dans une période un peu plus. En même temps, on va quand même en parler. Hein, ça, on dira, non, moi j'ai bien vécu ça. Tout le monde va raconter ses souvenirs d'anciens combattants du confinement, hein, quand même. Hein. Tout le monde.
Il y en a plein qui préparent leurs journaux du confinement. Hein. Heureusement que vous n'animez plus Apostrophe, hein, parce que la rentrée aurait été chargée.
Alors, moi, franchement, je n'irai pas parce que j'aurais l'impression de me confiner dans le confinement. Ce qui serait l'horreur. Non.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Wash your hands. Three. Don't touch your face. Four. Then do that dance. One. Keep your space. Two. Wash your hands. Three. Don't touch your face. Four.
Then do that dance.
Coronavirus.
Allô, Blandine Rinquel.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes l'auteur de L'abandon des prétentions et du nom Secret des choses, deux romans parus chez Fayard. Vous n'avez pas encore 30 ans, alors comment vivez-vous ce confinement ?
C'est sans doute le dernier appel que je passe, déjà, parce que mon portable est en train de me lâcher, qui est quand même un peu dur en confinement.
Ah oui, c'est pas de chance.
Ouais. Du coup, je le vis de manière technologique, comme tout le monde, le confinement. J'ai beaucoup besoin de mon ordinateur et de mon portable et c'est pas mal, je m'estime chanceuse, j'écris beaucoup et j'ai découvert une application qui s'appelle Entourage et qui est une application pour initialement pour aider les les SDF, enfin bref, c'est une application qui sert à créer du lien et qui là a créé un programme qui s'appelle Les Bonnes Ondes et qui consiste à faire ce que vous faites, c'est-à-dire à appeler des gens, mais qui sont dans des situations d'isolement. Et donc je suis en contact aussi avec des gens plus isolés que moi et qui me font réaliser ma chance. Voilà.
Ouais. Vous êtes également la chanteuse du groupe Catastrophe, dont le manifeste proclamait « Puisque tout est fini, alors tout est permis ». Vous avez l'impression que c'est le cas aujourd'hui ?
En tous les cas, oui, sans doute qu'il va falloir réinventer. Enfin, l'idée de ce manifeste, même si je ne suis pas sûre du mot, c'était qu'on nous disait en permanence que tout était fini. Et donc, puisqu'on nous disait ça en permanence, on en tirait l'idée qu'il fallait tout refaire, quoi. Qu'on pouvait tout, tout était permis d'avant, enfin, on pouvait tout réinventer. Oui, sans doute qu'il va falloir, enfin, plus que jamais, avoir de l'imagination. Bon, on le voit déjà. Enfin, il y a des gens. Ma mère a créé avec ses voisins un système de yo-yo pendant prison pour faire passer une bouteille de mousseux pour son anniversaire via un panier avec une corde. Je ne sais pas si ça va beaucoup aider la société, mais on voit qu'il y a de la crèche.
Oui, c'est ce qu'on fait en prison en général.
Voilà, c'est à sa manière, elle l'est, hein, je pense, un petit appart.
L'intérêt pour votre génération, c'est que depuis le temps qu'on vous bassinait avec mai 68, tout ce genre de choses, là, vous pourriez dire que vous avez vécu un truc plus marquant que mai 68.
Sans doute, n'ayant toujours pas vécu mai 68, je ne sais pas comparer. Mais c'est sans doute ce qu'on sera amené à dire de plus marquant, j'allais dire, non, on n'en sait rien. Mais oui, c'est la première fois, en tous les cas, que j'ai l'impression de vraiment vivre quelque chose d'historique avec un grand H. Alors, on se sent un peu bête. Enfin, moi, je me sens régulièrement bête dans la journée. J'essaie de me tenir au courant. Je vois plein de théories, plein de gens qui ont des opinions, surtout, beaucoup de gens qui parlent. Moins de gens qui écoutent, j'ai l'impression. Et voilà, j'essaie d'y comprendre quelque chose. J'ai l'impression d'être assez perdue et assez idiote. Mais c'est pas mal. Quand on est idiot, on a à apprendre, quoi.
Oui, c'était le titre de votre premier roman, hein, L'abandon des prétentions. Au fond, c'est ça.
Ouais, peut-être. Peut-être qu'on est en train de vivre ça à échelle mondiale.
Qu'est-ce qui vous manque le plus ?
De parler avec des gens. J'ai des connexions. J'ai un wifi foireux. Donc j'arrive pas du tout à pratiquer tous les Skype et que sais-je. Donc j'ai l'impression de pas avoir une vie sociale palpitante, de parler, de toucher, enfin des choses assez basiques. Je cherche pas à faire la maline, là je trouve pas de et de la scène aussi parce que je fais de la musique et donc je pense que là les concerts sont quand même mis en péril pour un long moment. On est même plutôt très pessimiste quant au moment où on pourra recommencer à faire de la scène et une forme d'innocence aussi. Je pense qu'il va avec le fait d'être avec des gens, de parler, de danser, de faire je sais pas quoi, des choses qui sont pas forcément intelligentes et qui nous maintiennent avec un sentiment d'être vivant. Là, on n'est pas très innocent, quoi. J'ai l'impression qu'on est inquiet toute la journée. Enfin, pas beaucoup d'innocence.
Vous faites la cuisine, vous vous régalez quand même, vous habillez le matin, vous vous maquillez.
Je me maquille pas parce que je me maquille pas de manière générale beaucoup, mais ouais, je m'habille quand même. j'ai beaucoup de vis-à-vis, enfin il y a des fenêtres partout autour de moi, donc on se recrute quand même entre voisins. Ouais. Surtout mes voisins. Enfin, j'ai un couple de voisins en face là qui je les ai déjà entendus dire qu'ils appelaient la police pour dénoncer je ne sais qui. Donc je me méfie. J'essaie de bien me tenir quand je passe devant ma fenêtre. Et la cuisine, pas trop, parce que je suis dans un petit appartement qui est pas très fonctionnel. Enfin, il y a pas de four, il y a pas de, enfin c'est pas, il y a même pas de table en fait pour manger.
Vous mangez dehors ?
Non, on mangeait beaucoup. Beaucoup en faisant quand on est en tournée, tout ça, beaucoup avec des gens, en fait. Et beaucoup de pâtes le soir, sans trop se préoccuper de, je sais pas, parce qu'en fait, on vivait plus vite, quoi. Donc, on se préoccupait pas tellement de la qualité de ce qu'on mangeait. Et du coup, là, oui, c'est vrai que j'essaye de me mettre un peu à la cuisine, mais on n'a pas trop le matériel, quoi.
Ouais, il va falloir improviser. Pour le coiffeur, tout ça, pas de soucis particuliers. Vous avez les cheveux longs naturellement, de toute façon.
J'ai tout à fait. J'ai les cheveux longs naturellement. Je ne sais pas si c'est si rare. Non, pas de soucis particuliers. Non, j'ai vu que c'était une inquiétude. Ouais. J'ai vu sur les réseaux que les gens étaient très inquiets quant à leurs cheveux. Non, franchement, j'ai rien de très intéressant à dire sur mes cheveux.
Et vous n'avez pas pris de poids non plus, donc vous êtes à peu près débarrassé de tous les soucis qui envahissent la plupart d'entre nous.
Ouais, ouais, non, je pratique le cardio, hein. Non, à peu près sur 2 mètres carrés, mais ça marche très bien avec Mohamed de Gym Direct qui me fait faire du cardio régulièrement.
Très bien, mais pourvu que Internet continue de marcher alors.
Ouais, à son rythme, ouais.
Merci Blandine Rinquel et portez-vous bien.
Ouais, réciproquement. Au revoir.
Au revoir. Et voici encore une chanson prémonitoire, Dans ta chambre, de Danny Briand. Dans ta chambre, on est bien à l'abri, loin du monde qui nous fait des soucis.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Le soleil peut bien se lever. Je préfère rester couché.
Danny Briand, 2009, sur son album Porto Rico. Et j'appelle tout de suite le critique d'art Hector Obalk. Ses spectacles, toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures au théâtre de l'Atelier était un véritable succès. 20 000 spectateurs déjà, ils ont été interrompus et il vient de mettre en ligne sur Grand Art Online toute la première saison de Grand Art en VOD avec des visites de musées, des vidéos dont 1 heure est gratuite. Allô, Hector Obalk.
Bonjour.
Vous allez bien? Où êtes-vous confiné?
Très bien, oui. Je suis dans le même arrondissement à Paris.
Vous êtes confiné tout seul?
Non, j'habite avec ma mère, qui a 91 ans. Et voilà, je suis confiné avec elle.
Donc, c'est vous qui sortez, elle reste à la maison?
Exactement, je fais les courses, je m'occupe de ma maman. Enfin bon, elle a 91 ans, mais elle est Elle est un peu déprimée, là, mais je dois dire qu'elle est quand même en pleine forme intellectuellement.
Oui, votre mère, c'est Henriette Walter, hein, qui est une célèbre linguiste, qui vient juste de publier un livre, d'ailleurs, juste avant le confinement.
Juste 2 semaines avant le confinement. Les mots de la cuisine et de la table, les petits plats dans les grands. Tout vous dire, j'ai fait la maquette de la couverture, et c'est elle qui a écrit le livre.
Il y a de plus en plus d'expositions confinées, donc d'expositions qui se donnent directement sur Internet. Est-ce que vous voulez consulter, est-ce que vous allez voir ce que font les artistes?
Enfin bon, évidemment, si c'est des artistes qui font des choses électroniques, il n'y a rien de mal que ce soit sur Internet, mais ça ne veut rien dire des expositions sur Internet. Je veux dire par là, si vous voulez acheter des tableaux, il faut les voir en vrai, quoi. Et même si vous connaissez très 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 bien l'artiste, il faut le voir en vrai, ça pourrait être un faux, oui, bon. Non, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, mais en fait, il faut bien que les gens fassent ce qu'ils ont à faire.
Est-ce que, de quoi souffrez-vous, vous, depuis ce début de confinement?
Moi, tout personnellement, c'est l'amitié qui manque. Ah, je me demande si j'ai assez d'amis. Je suis éberlué. Il y a des gens que j'appelais très souvent. Puis là, ils me disent, je te rappelle dans 2 jours. 2 jours. Mais pour moi, c'est quand même une très grande amitié, 2 jours. Et avant, on s'appelait, bon, voilà, on trouvait toujours un moment. Ben non. D'ailleurs, je pense que les gens sont tout le temps au téléphone et qu'on peut plus les joindre. C'est plus du tout comme avant, quoi. Ouais. Alors, il y avait toujours un truc, et toujours un moment, ils sont dans le métro, dans le taxi, dans je sais pas quoi, qui fait que peut-être j'ai pas assez d'amis, ou peut-être c'est pas des grands amis, ou, ben, je suis un peu des pessimistes en ce moment-là.
Oui, mais peut-être que vous les appelez pas à la bonne heure.
Ouais, peut-être. Mais enfin, normalement, c'est pas ça. C'est qu'on se rappelle, on trouve toujours un moment, quoi, vous voyez.
Ouais.
Enfin, c'est pareil, je suis un peu triste pour ça.
Mais quand vous les arrivez à les joindre au téléphone, est-ce que vous parvenez à parler d'autre chose que du coronavirus?
C'est vrai que c'est comme les gilets jaunes, hein, il faut changer de sujet, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on en parle un peu trop, oui, ça devrait être une discipline de plus, ça, oui, parlons d'autre chose, oui, c'est vrai.
C'est peut-être pour ça qu'ils vous prennent pas au téléphone, ils se disent, ah, on va encore parler du virus.
Non, il y a autre chose, je sais pas ce que c'est. Non, je crois franchement que, honnêtement, hein, je pense que depuis qu'on est confiné, on est tout le temps au téléphone, ou en visioconférence, ou en je sais pas quoi, et on n'a jamais le temps, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, quand on se voit, on se voit à plusieurs, bon ben, on peut parler à un tel pendant qu'on est avec un tel, mais là, c'est plus possible, le téléphone, c'est obligé d'être avec une seule personne à la fois. Enfin, je veux dire, bien sûr que non, puisqu'il y a des visioconférences, mais on peut pas faire venir, enfin bon, je sais pas.
Si vous manquez d'amis, il reste les réseaux sociaux.
Oui, ça c'est pire que tout, parce que j'ai avoir des réseaux sociaux, c'est vraiment le truc de la... Je sais pas, moi, ni moi, je me suis fait, je suis très, très négatif sur ce que je raconte. Je fais un spectacle. Enfin, quand vous m'avez pas introduit, je sais même pas si les gens sont au courant que je fais un spectacle.
Mais oui, bien sûr. D'abord, parce que j'ai fait en balade avec vous et que j'ai annoncé que vos spectacles étaient interrompus alors que c'était un très gros succès.
C'est gentil. Bref, j'ai dû les interrompre. Donc, je fais un mail pour dire aux gens, puisque il y en a quand même beaucoup, que je vais ouvrir des dates en juin. Et je reçois une bordée d'injures de la part des réseaux sociaux, comme vous dites, qui me disent qu'il y a l'indécence de faire du marketing au moment où c'est la guerre. Vous savez, il y a des gens qui meurent. J'y crois pas, quoi. C'est-à-dire, j'y crois pas. C'est-à-dire, pour eux, quoi, c'est la fin du monde et on n'a pas le droit d'essayer de sauver son petit... sa petite activité en essayant de voir qu'est-ce qu'on va faire pour la fin espérée du coronavirus. Enfin, bref, je suis un peu dégoûté par tout ça. Mais bon,
il y a toujours eu ça à toutes les époques. Ouais. Pendant l'épidémie de peste noire au Moyen-Âge, il y avait les flagellants qui traversaient les villes en procession, en se donnant des coups de fouet et en demandant aux gens de se repentir. Ah oui. On dirait que c'est un peu la même chose aujourd'hui. On a nos flagellants. En fait, il en faut à toutes les épidémies.
Non, mais surtout qu'ils veulent tous qu'on pense pareil qu'eux. C'est-à-dire, eux, ils ont bien droit d'être pessimistes. Je ne le suis pas. Pour plein de raisons, je ne le suis pas. Même si je suis un peu déprimé. Et si on n'adopte pas leur point de vue à eux, et même leur sentiment à eux, et leur ressenti à eux, ça y est, on est dans l'indécence. Je vais vous dire pourquoi je suis pas pessimiste d'abord, parce que, bon, c'est bien sûr, c'est très triste, 10 000 morts en France. Je ne sais pas combien il y en a en France. 10 000, c'est ça?
Sans doute.
Enfin, oui. C'est 4 fois moins que le nombre de morts dues à l'alcool. C'est triste, hein, je dis pas le contraire. Et puis surtout, ça risque d'être bien, bien supérieur si on fait pas tout ce qu'il faut. Enfin, c'est pas non plus la fin du monde, disons. Voilà. 5, je dirais.
Depuis que vous avez ouvert votre plateforme en ligne, Grand Art Online, là, il y a la première saison de Grand Art en VOD, il y a des visites de musées, des vidéos gratuites. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de monde ou...
Oui, c'est vrai, depuis que j'ai sorti Grand Art saison 1, c'est pas moi qui l'ai sorti, c'est ma production, là, ça tombait bien, c'était un an et demi de travail, ça tombe juste sur le moment du corona. Et en effet, c'est des... Parce que les coffrets, les DVD, j'ai remarqué que les gens n'aiment plus tellement ça. Et là, tout d'un coup, je suis à l'union avec tous les gens qui vont poser des trucs sur Internet. Moi aussi, voilà, c'est aussi bête que ça. Le seul truc, c'est que moi, je suis pas très pour la gratuité. Je trouve la gratuité, c'est vraiment un truc de riche. Pour voler les pauvres, vous voyez. Je suis contre la gratuité. La gratuité, c'est pas ça qui va nous faire survivre. Non. C'est tout le monde y perd. Celui qui gagne, il s'appelle YouTube et il s'appelle Facebook, vous voyez. Et pour tout le monde, c'est juste la merde, la gratuité. Donc, je pense que la gratuité, c'est le vol. Et j'espère qu'il y aura de moins en moins. Enfin, je suis un peu obligé, donc j'ai fait des trucs gratuits quand même. Bon. Où on voit tous mes films. On voit même des très larges séquences de toutes les sortes de la peinture en moins de 2 heures, là. Mon spectacle qui va continuer d'ailleurs en septembre, hein, qui va continuer après la rentrée.
Je l'espère bien. Merci beaucoup, Hector Obalk. Et portez-vous bien.
Mais c'est ce qu'on dit en général. Merci encore.
Exactement.
Ciao.
What's up? It's Corona. Coronavirus. What's happening? Y'all ready? Hey. Wuhan. 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 Wuhan.
En balade avec le téléphone se termine. Je vous souhaite un très bon dimanche. Restez confinés. On se retrouve dimanche prochain à 11h pour une autre balade.